France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Il est tout rouge, le quatrième volume de l'intégrale Bach de Benjamin Allard chez Harmonia Mundi, autour de Venise, autour des concertos italiens, autour de Vivaldi, les transcriptions de Jean-Sébastien Bach. C'est la folle aventure de Benjamin Allard, l'intégrale Bach au clavecin à pédalier, à l'orgue. Bonjour Benjamin Allard.
Bonjour Jean-Baptiste Urbain.
On va se plonger dans ce disque qui fait du bien jusqu'à 9h avec ses transcriptions de Bach de Vivaldi. Mais d'abord, Charles Trenet. Et oui, je ne le savais pas, quand vous êtes entré dans le studio, on écoutait Fleur Bleue. Et vous me disiez que, il y a 20 ans, vous y étiez à l'enterrement de Charles Trenet.
Exactement.
Aux obsèques.
C'est un souvenir, c'était vraiment le hasard. Parce que j'étais à l'époque... ami de François-Henri Houbart, je suis toujours d'ailleurs, qui était à l'époque organiste de la Madeleine, et j'étais de passage à Paris avec un ami violoncelliste pour voir des amis. C'était d'ailleurs pendant les vacances du mois de février, et j'ai appris que l'enterrement allait avoir lieu à la Madeleine, à la radio, et j'ai tout de suite téléphoné à François-Henri pour savoir s'il accepterait qu'on assiste à la tribune, à la cérémonie, et il a accepté. Et je me souviens d'une très belle improvisation sur la mer, à la sortie. J'étais très impressionné de voir toutes ces personnalités défiler depuis la tribune. Charles Aznavour, enfin voilà, c'est très impressionnant pour les adolescents qu'on était à l'époque.
Souvenir particulier donc de ces 20 ans de la disparition de Charles Trenet, de Benjamin Allard. Organiste aussi, d'ailleurs, vous êtes, on en parlera tout à l'heure, vous êtes titulaire de l'orgue Bernard Robertin de l'église Saint-Louis en Lille. Premier extrait de ce disque, Vivaldi, Bach ou Vivaldi ? Extrait de ce quatrième volume de l'intégrale Bach de Benjamin Allard. C'était le premier mouvement du concerto pour clavecin en ré majeur BWV 972. Mais c'est aussi Vivaldi, Benjamin Allard. Un mot d'abord de cette intégrale. Vous aurez fini quand ?
Oh, ça me paraît très difficile de le dire. Peut-être dans 10 ans.
Ça vous fait peur ?
Non, oui.
Ça enfin, fait des perspectives.
Ça me fait peur d'une certaine manière. Ça me faisait moins peur quand j'ai décidé de me lancer là-dedans. Puis plus j'avance et j'ai une certaine confiance en moi, mais ça, ce qui me fait peur, c'est plutôt l'aspect colossal un peu de l'entreprise et aussi du nombre d'œuvres. Et surtout quand on touche à des œuvres qui sont moins connues, souvent, aussi pour le public, on a l'impression que ces œuvres sont moins importantes, qu'elles sont moins connues, et de fait qu'elles sont moins nombreuses. Et bien, c'est pas vraiment le cas, c'est-à-dire, par rapport à ce que Bach a écrit, et ce qu'il a choisi d'éditer à compte d'auteur, je parle des grandes œuvres comme les Variations Goldberg, les Partitas, eh bien, il y a énormément d'œuvres, d'une part, qui n'ont pas été éditées et puis qui sont recopiées. Et la majeure partie de l'œuvre de Bach, c'est pas celle, finalement, qu'on connaît au niveau de la quantité de musique. Donc, c'est ça qui est très difficile à organiser, à enregistrer, bien sûr, mais à présenter, je dirais, au mieux, sans que ce soit ennuyeux et que ce soit un enregistrement ou une intégrale qui semble encyclopédique avec des références qui n'auraient que des références qui ne seraient pas des références musicales. C'est pour ça que j'essaie au mieux de choisir des instruments particuliers, de mettre en regard les œuvres. Un peu comme si j'étais un commissaire d'exposition qui est à présenter des œuvres, des tableaux de différents maîtres, d'influences de différentes natures, mais autour d'un même sujet, donc qui est Bach, et l'œuvre de Bach pour clavier.
Donc là, c'est votre période rouge, le disque, le coffret est rouge, vous avez un pull rouge, le rouge de l'Italie peut-être derrière. C'est construit quand même chronologiquement.
Oui, tout à fait. J'ai commencé avec les œuvres de toute première jeunesse de Bach. J'ai eu beaucoup de chance d'être aidé par mon maître Jean-Claude Zender, qui était professeur à Bâle, à la Schola Cantorum, qui fait partie du comité Bach de Leipzig et qui a une très très grande connaissance de Bach en général, mais qui a écrit ses deux derniers livres sur la première période de Bach et son deuxième, son tout dernier, sur la période de Weimar. Donc ça m'a énormément aidé, en lien avec lui, à concevoir des programmes. Parfois, quand je décide de les enregistrer sur un instrument, je me rends compte que ça fonctionne pas forcément, alors je change mon fusil d'épaule. Enfin, tout ça est une aventure assez très vivante et extraordinaire que je partage aussi avec Alban Moreau, qui est un ingénieur du son et directeur artistique. Et c'est comme si on était un peu liés pour très longtemps.
Ici, on plonge dans ces années italiennes. Enfin, il n'est pas en Italie, Bach, il est à Weimar. Et comment découvre-t-il cette musique de Vivaldi?
Alors, la musique circulait par le biais d'éditions qui étaient publiées dans différentes grandes villes, Amsterdam, les grandes villes du Nord. Et les princes pour qui Bach travaillait, dont le jeune prince d'Anhalt voyageait beaucoup, était amateur de musique et avait à disposition cette musique. Donc on peut très bien imaginer que Bach pouvait la lire, et le fait de la transcrire, c'est pas seulement le fait de la transcrire pour clavecin, c'est pour la diffuser surtout, mais c'est aussi, à mon sens, pour prouver que le clavecin a une dimension orchestrale. Ça aide aussi à jouer de manière différente. Souvent, ces œuvres, comme je disais tout à l'heure, sont peu jouées. Malheureusement, pour certaines, pas assez connues, à mon goût. Et on imagine que c'est un travail de table que Bach a pu réaliser pour se faire la main sur la forme du concerto, etc. Mais c'est bien plus que ça. C'est un travail très très fin de recherche et de voir comment, à l'écrit, une musique orchestrale peut sonner différemment par l'intermédiaire du toucher. On peut tout à fait faire ressortir telle ou telle voix, et aussi en ayant la connaissance des œuvres originales, ce qui est tout à fait possible parce qu'on les a, on peut aller les consulter. On peut tout à fait rendre ces musiques très vivantes et faire sonner un clavecin à la fois à la manière d'un soliste ou d'un orchestre ou d'un tutti ou d'un... Voilà.
Et toute la gageure pour l'interprète, oui, aussi de cet exercice. Alors il y a des pièces très brillantes, très vives, comme celles qu'on vient d'entendre, et puis il y a des moments beaucoup plus doux, apaisés, des grands adagios comme celui-ci.
Thank you.
Adagio du concerto en ré mineur 974 de Jean-Sébastien Bach. Ici, d'après, non pas Vivaldi, il n'y a pas que Vivaldi qui l'a inspiré, mais Marcello, le concerto en ré, concerto pour hautbois. Benjamin Allard, notre invité avec ce nouveau volume, quatrième volume de l'intégrale Bach chez Harmonia Mundi. Vous disiez, il ne s'agit pas de se faire la main pour Bach, c'est diffuser la musique et c'est montrer sa richesse, mais c'est aussi un travail pour l'interprète. Comment on fait percevoir l'orchestre? Comment on fait percevoir l'instrument soliste avec vos 10 doigts?
Alors, il faut déjà une connaissance assez importante de l'œuvre originale, il est très important. Et je me permets de corriger une petite erreur que j'ai dite, je ne suis pas très bien réveillé, mais tout à l'heure, j'ai parlé du prince d'Anhalt Goethe, c'est bien plus tard, c'est le Johann Ernst de Saxe-Weimar, qui avait 18 ans quand il est mort, et qui a fait des transcriptions également, dont Bach a fait des transcriptions. Et, pardon, mais
vous faites bien parce que le standard avait explosé.
Ah oui, alors ça, je voudrais pas qu'on me reproche de dire des âneries si tôt le matin. Mais comment on fait? Eh bien, je pense que quand on a à l'esprit la dimension orchestrale de telles œuvres, et aussi la grande liberté avec laquelle pouvaient s'exprimer les solistes, le ou les solistes de l'époque, ça aide beaucoup. C'est-à-dire que on a ensuite une lecture de la transcription de Bach qui est beaucoup plus simple à comprendre. C'est un peu comme quand on cherche ce qu'a voulu faire un cinéaste à partir d'un roman, on comprend mieux comment les choses ont été construites dans la transcription. C'est vraiment. Et ensuite, ça dépend beaucoup de l'instrument. Si on a un instrument très chantant, avec des tessitures qui parlent de façon assez différente, comme cet instrument magnifique, historique, qui est conservé au musée de Trévise, qui permet également de faire entendre des sons très doux à la manière d'un luth, avec des cordes de boyau, eh bien, on peut travailler cette matière sonore en arpégeant, en faisant ressortir plus telle ou telle voix, telle ou telle soliste, en jouant de manière plus marquée certains accords pour faire sentir l'effet de l'orchestre, le tutti, l'arrivée de... Et ça, évidemment, ça se passe à la fois dans la tête du musicien, mais il faut avoir à l'esprit comment l'œuvre est construite au départ par Vivaldi, en l'occurrence, ou Marcello, et voir comment Bach a voulu réaliser cette transcription pour que cette œuvre sonne au clavecin, mais de manière très orchestrale et surtout pas plate. Et j'insiste encore une fois sur le fait que les musiciens et l'ornementation étaient extrêmement libres. Et on voit que Bach a très très bien compris ça, parce que pour certains mouvements de Vivaldi, qui sont souvent écrits très simplement, comme une trame, il y a juste trois noirs et trois ou quatre notes par mesure, et bien Bach fournit une ornementation, comme ça pouvait être le cas des improvisateurs de l'époque et des violonistes de l'époque ou des oboïstes de l'époque ou des instrumentistes qui improvisaient. Ça, c'est très important d'avoir cette grande liberté pour que le soliste s'exprime et passe très bien.
Benjamin Allard, le grand Bach, il s'affranchit de Vivaldi, il prend des libertés, il complète, il réécrit par rapport à ce que vous dites, où on est, c'est surtout l'interprète et l'ornementation.
Ah non, non.
On écoute le disque, on ne sait pas forcément ce qui est écrit et ce qui est de vous.
Alors, il réécrit beaucoup, il ornemente énormément, mais cet aspect du rubato, c'est-à-dire du fait, comme disent souvent les anciens, que la carrure de la mesure est présente, mais que le soliste, c'est-à-dire la plupart du temps la main droite, peut s'en évader et jouer sur une base, une structure rythmique qui est stable. Mais justement, pour que le soliste ressorte et prenne sa place, eh bien, il faut qu'il soit complètement libre et qu'il ne joue pas tout à fait en même temps. Et dans ces mouvements-là, notamment, on saisit bien que Bach a suggéré toute cette écriture par des décalages, même parfois écrits, de rythme. Et c'est ça qui est tout à fait important et beau et nécessaire pour faire ressortir tout ça.
Alors, il n'y a pas que du clavecin sur ce disque. Il y a aussi, comme depuis le début de ces volumes, de cette intégrale, les trois premiers volumes, il y a aussi de l'orgue.
Thank you.
soll ich fliehen in, chorale 694 de Jean-Sébastien Bach, Benjamin Allard à l'orgue sur l'orgue de Marmoutier à l'abbaye de Saint-Étienne. Pourquoi des chorales, on sort du cadre de ce dont on a parlé, c'est ce qui compose en même temps?
Oui, on sort du cadre parce que évidemment à l'orgue, il y a des transcriptions pour orgue que Bach choisit de faire sciemment pour orgue, pour des raisons de tessiture, mais pour des raisons aussi musicales. C'est-à-dire qu'à l'orgue, on a des sons qui sont beaucoup plus tenus et on peut évidemment faire chanter encore plus. Et il demande expressément des plans sonores différents, c'est-à-dire souvent deux claviers différents. Et là, on a très clairement, de fait, le clavier du soliste, qui est plutôt en avant, qui est situé derrière l'organiste la plupart du temps, donc plus proche des auditeurs. Et puis le clavier de principal, de grand orgue, qui est situé un peu plus haut et qui a un son plus orchestral, mais pas forcément plus fort. Voilà. Et le fait d'avoir choisi ces chorales, c'est qu'ils sont datés à peu près, donc d'après Jean-Claude Sender, comme je le disais tout à l'heure, de la même période. Ils sont pas dans des recueils, ils ont circulé comme ça. Mais stylistiquement, souvent, évidemment, le choral et la mélodie du choral fait partie de la carrure de la pièce. Mais stylistiquement, pour bon nombre d'entre eux, il y a des motifs qu'on peut tout à fait retrouver dans la musique italienne et qui sont tout à fait d'influence italienne. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de les intercalés dans le disque d'orgue.
Et puis il y a aussi Concerto pour orgue d'après Vivaldi aussi sur le troisième disque, et puis cette grande toccata qui est une sorte de concerto grosso.
Exactement.
On parlait de ces différents clavecins, Benjamin Allard, donc il y a ce clavecin très vite. On va écouter un peu ce que ça donne quand même, ce clavecin avec ces cordes en boyau, vous disiez, et ce son de luth. Quelques secondes seulement, mais c'était pour avoir une idée de ce son-là.
Oui, c'est un son qui est composé, donc la plupart du temps, le son du clavecin est produit par le fait de pincer la corde par l'intermédiaire d'un sautereau avec un plectre qui pince une corde, mais qui est en métal. Et depuis les origines, quand même, du clavier et du clavecin, qui s'appelait pas forcément clavecin au départ, mais clavicymbalum ou cymbalum, eh bien, les cordes n'étaient pas toujours faites de métal. Et ce facteur d'influence flamande, enfin qui est d'origine flamande, qui s'est établi à Rome à la fin du XVIIe siècle, qui a travaillé notamment pour Handel quand il était à Rome, a construit plusieurs instruments sur lesquels il y a un jeu qu'on peut appeler teorbino, c'est-à-dire théorbe, petit théorbe, jeu de luth avec des cordes de boyau. Et mélangé aux cordes de métal, ça donne cet effet tout à fait particulier que j'ai trouvé très intéressant pour servir justement ces œuvres de Bach Vivaldi, parce que c'est une couleur très chatoyante, très charmante et très chaude aussi. Et pour cette musique italienne, ça m'a semblé correspondre à ce qu'on pouvait faire avec un instrument à un clavier, voilà, en Italie.
Le quatrième volume de l'intégrale Bach vient de paraître chez Harmonia Mundi. Benjamin Allard, depuis 8h30, on n'a pas parlé de la crise sanitaire, on n'a pas parlé des concerts en streaming. Vous jouez, vous, alors pas pour du public, mais vous jouez pour les fidèles, puisque vous êtes titulaire d'un orgue, d'une tribune.
Oui, exactement. J'ai la chance d'être organiste à l'île Saint-Louis. Alors malheureusement, l'orgue, c'est encore pas de chance, oui, n'est pas vraiment en travaux, mais il est bâché pour être protégé, parce qu'il y a des travaux assez importants sur la toiture de l'église. On espère qu'il pourra être bientôt débâché et qu'on pourra à nouveau s'en servir, mais comme nous ne pouvons pas faire de concert, de toute façon, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on espère pour bientôt. Mais j'ai eu vraiment la grande joie de rejouer chez nos amis espagnols, qui se battent pour maintenir les concerts. Et c'est vraiment une grande joie de pouvoir retrouver le public.
Et vous aurez la joie de retrouver les auditeurs de France Musique demain
déjà
à 16h.
Oui, demain.
On ne vous quitte plus, Benjamin Allard, ce sera en direct avec Clément Rochefort, en direct du théâtre de l'Alliance française. Vous allez jouer quoi, vous savez déjà?
Je vais jouer un mouvement d'après Marcello et puis deux concertos de Vivaldi.
Rendez-vous demain à 16h. Merci Benjamin Allard.
Merci à vous.
À réécouter sur francemusique.fr.